D'habitude, quand on aborde un texte extrêmement célèbre, un texte fondateur qui a façonné des pans entiers de la culture mondiale, on s'attend à de la stabilité.
Ouais, complètement. On l'imagine comme un immense monument en pierre, quoi.
C'est ça. On le regarde, on connaît ses contours par cœur, on a vu les peintures, on a entendu les histoires depuis l'enfance, et on se dit, bah voilà, c'est gravé dans le marbre, on sait ce que ça dit.
Ben, c'est une réaction hyper humaine, en fait. L'esprit cherche la certitude, surtout face à des textes anciens.
C'est clair.
C'est infiniment plus rassurant de penser que le sens originel d'un récit est figé, qu'il est parfaitement transparent, plutôt que d'admettre qu'il repose sur des choix de vocabulaire super complexes.
Décomposons tout cela. Car aujourd'hui, notre exploration nous amène exactement sur ce terrain mouvant.
Un terrain très glissant, même.
Exactement. On plonge au cœur des notes d'une conférence académique. Plus précisément, la 10e leçon d'un cours d'histoire de l'Ancien Testament qui était donnée par le professeur Robert Van Hoy.
Et c'est une leçon qui réserve pas mal de surprises.
Oh que oui. L'objectif, c'est d'examiner comment ce cours parvient à relier des points de recherche complètement inattendus.
Oui, le grand écart est impressionnant.
On part d'une analyse chirurgicale de l'hébreu ancien dans le livre de la Genèse pour redéfinir le concept du mariage. Et de là, et c'est là que ça devient fou, le cours opère un virage spectaculaire vers l'astrophysique du XXe siècle.
Pour aboutir sur une critique mathématique de la théorie de l'évolution. Rien que ça.
C'est un sacré voyage.
Bah, ce qui rend ce parcours intellectuel particulièrement pertinent pour quiconque aime apprendre, c'est vraiment l'exercice d'esprit critique qu'il exige.
C'est-à-dire ?
Je veux dire qu'on ne lit pas simplement une conclusion théologique. On observe la mécanique interne d'un argumentaire.
On regarde sous le capot, en quelque sorte.
C'est ça. On voit comment un érudit déconstruit des traductions qui nous sont super familières pour ensuite utiliser des théories scientifiques modernes et laïques de surcroît pour appuyer sa propre vision du monde.
C'est fascinant d'étudier comment les idées sont assemblées dans ce genre de discours.
Absolument, c'est une vraie leçon de rhétorique.
Commençons par cette fameuse déconstruction linguistique, au chapitre 2 de la Genèse. Le cours s'arrête sur le moment où Adam nomme les animaux.
Oui, les versets 18 à 20.
Voilà. Le texte explique qu'en accomplissant cette tâche, il réalise qu'aucun de ces animaux ne lui correspond.
Il y a un vide qui se crée.
Pour illustrer, c'est un peu comme si on demandait à un chercheur de faire l'inventaire complet d'une bibliothèque gigantesque.
J'aime bien cette image.
Il catalogue des milliers de livres, la botanique, l'astronomie, l'histoire de l'art. Et à la fin, il réalise, avec une certaine angoisse, qu'il manque le seul manuel dont il a cruellement besoin pour comprendre son propre travail.
Il y a un manque fondamental, ouais. L'analogie de la bibliothèque capture très bien cette idée de prise de conscience. L'homme découvre un vide existentiel en observant le règne animal.
Mais là où le cours devient très incisif, c'est sur la nature exacte de ce qui doit combler ce vide, non ?
Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont le professeur Van Hoy déconstruit l'expression hébraïque. Historiquement, elle a souvent été traduite par des termes assez réducteurs.
Genre, une aide qui lui soit assortie, ce genre de choses.
Exactement. Et le problème, c'est que ça a laissé s'installer une idée de hiérarchie, de subordination.
Attends, c'est justement ce qui m'a fait tiquer à la lecture de la source. Comment on passe d'une notion de simple assistante à ce que le cours présente ensuite comme une égalité absolue ?
C'est un saut conceptuel énorme, c'est vrai.
Bah oui. Comment un seul mot hébreu peut-il abriter une telle divergence d'interprétation ?
Tout réside dans l'étude lexicale. Le conférencier ne se contente pas des traductions anglaises ou françaises courantes qu'on a l'habitude de lire.
Il va chercher plus loin.
Il convoque un lexique allemand très pointu, vraiment spécialisé, pour disséquer l'expression originale.
Et que dit ce dictionnaire allemand ?
Il définit le terme non pas comme un subordonné ou un assistant, mais très précisément comme, je cite, « une aide égale et adéquate à lui-même ».
Égale et adéquate ?
Oui. Le mécanisme linguistique ici, ça implique un vis-à-vis, un reflet. Quelqu'un qui se tient exactement sur le même plan.
Ce n'est pas l'idée d'un adjoint qu'on appelle en renfort.
Pas du tout. C'est bien l'idée d'une pièce manquante du même puzzle.
C'est fou de voir comment une traduction légèrement biaisée a pu, pendant des siècles, alimenter l'idée d'une infériorité structurelle.
Ouais, les mots ont un pouvoir immense.
Mais si on accepte cette idée d'un partenaire strictement égal, cela soulève un problème immédiat dans la suite du texte.
D'où vient ce partenaire, physiquement parlant ?
Exactement. Et là, le cours nous entraîne vers une anomalie de traduction qui m'a semblé honnêtement complètement surréaliste. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parlons de ce fameux mot hébreu « salab ».
Ah, le mot « salable », c'est probablement l'un des débats de traduction les plus célèbres et les plus mal compris de l'Antiquité.
Le récit traditionnel, celui qu'on voit dans toute l'iconographie classique, parle d'une côte qui aurait été retirée à Adam pendant son sommeil.
Oui, pour former la femme.
Sauf que les notes de cour révèlent que ce terme, salab, est traduit de manière totalement différente absolument partout ailleurs dans l'Ancien Testament.
Systématiquement.
Il est traduit par « côté ». Du coup, pourquoi diable ce texte spécifique de la Genèse parlerait-il d'une côte anatomique, alors que la règle de traduction générale pointe vers une dimension spatiale ?
C'est tout le nœud du problème anatomique. Et pour comprendre, il faut vraiment regarder comment la langue fonctionnait à l'époque.
Le professeur Vanoye donne des exemples précis, n'est-ce pas ?
Il liste minutieusement les autres obturances pour bien montrer l'anomalie. Par exemple, dans le livre de l'Exode, au chapitre 25.
Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Ce mot « salab » décrit le côté de l'Arche de l'Alliance.
D'accord.
Plus loin, au chapitre 27 de l'Exode, ce sont les côtés de l'autel. Et dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 16, il s'agit du côté d'une colline.
C'est toujours, je veux dire, c'est toujours une notion d'architecture, de structure externe ou de géographie, quoi.
Exactement. Ce n'est jamais de l'ostéologie, jamais un os.
Mais alors, d'où sort cette histoire de côte ? Il y a bien dû y avoir une logique derrière ce choix des premiers traducteurs. Ils n'ont pas inventé ça par hasard.
La logique, elle est grammaticale, mais on va voir qu'elle est super fragile.
Vas-y, explique-nous.
Dans Genèse 2:21, le mot « salab » est au pluriel et il est précédé de « une de ».
Le texte dit que Dieu prend « une de ces quelque chose ».
Voilà. Et face à ce pluriel appliqué au corps humain, les traducteurs ont paniqué et ils ont cherché un précédent dans le texte biblique.
Et ils ont trouvé quoi ?
Ils se sont tournés vers le premier livre des Rois, au chapitre 6. Ce passage décrit la construction du temple de Salomon avec des planches ou des madriers de cèdre.
Des planches ?
Oui, c'est le seul endroit où une nuance de parties structurelles multiples apparaît pour ce mot. Ils ont donc pris cette idée de pièce de charpente et, l'appliquant au thorax humain, ils ont opté pour la côte.
Mais honnêtement, utiliser le vocabulaire de la menuiserie et la charpente antique pour décrire la biologie humaine, ça semble être un raccourci de traduction pour le moins audacieux.
C'est le moins qu'on puisse dire, ouais.
Surtout quand on pense que ça a engendré ce mythe biologique populaire, souvent utilisé pour se moquer du récit d'ailleurs, selon lequel les hommes auraient une côte en moins.
C'est ça. Et la fragilité de cette justification linguistique, c'est ce qui pousse de nombreux théologiens modernes, y compris notre conférencier, à revoir la copie.
Il suggère quoi, du coup ?
Il suggère que le texte originel parlait simplement de prendre un décoté de l'homme.
Un côté entier.
Une part de sa totalité corporelle, oui. Et non pas un petit os spécifique. D'ailleurs, le cours s'attarde sur l'exclamation d'Adam qui suit juste après.
Quand il dit « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair ».
Oui, Adam ne lit pas un rapport d'autopsie à ce moment-là.
C'est sûr qu'il ne fait pas l'inventaire de son squelette, quoi.
Pas du tout. Le cours relie ça à une métaphore qui était super connue à l'époque. On la retrouve dans 2 Samuel 5.1.
Ah oui, avec le roi David.
Exactement. Les tribus d'Israël viennent voir David et lui jurent fidélité en disant, je cite, « Nous sommes tes os et ta chair ».
Et ils ne sont évidemment pas fabriqués à partir des côtes de David.
Ben non, c'est une figure de style typique du Proche-Orient ancien pour exprimer une consanguinité, une loyauté absolue.
Une identité partagée, en fait.
Voilà. La métaphore souligne l'essence commune, pas le processus chirurgical.
Et cette idée d'essence commune, c'est vraiment le tremplin idéal pour la suite de l'analyse académique. Une fois que cette origine physique partagée est établie, le cours aborde la philosophie de l'unité humaine et l'institution du mariage.
C'est une transition logique.
C'est là qu'on trouve Genèse 2.24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce qui m'a surpris ici, c'est que le cours souligne que ce n'est pas Adam qui prononce ces mots.
C'est un détail littéraire essentiel. Ça change toute la lecture du passage.
C'est le narrateur qui parle, c'est ça, hein ?
Exactement. C'est un ajout du narrateur, une sorte de parenthèse explicative qui est adressée au lecteur bien après les faits.
Et c'est là que le débat théologique devient pointu. Si c'est le narrateur qui parle, on doit se demander est-ce une injonction, une loi stricte qu'il impose ou simplement une observation sociologique ?
La syntaxe hébraïque est assez ambiguë à cet endroit, pour être honnête.
Ah bon ?
Oui, elle permet au verbe d'être lu soit comme un impératif, soit comme un présent descriptif.
Et le cours se positionne comment ?
Le professeur Vanoye expose vraiment ce clivage. Il cite d'abord Jean Calvin, pour qui la traduction doit absolument refléter un impératif.
Donc un ordre.
Pour Calvin, ce verbe « quittera », c'est un commandement divin, un devoir moral rigide qui est lié à la création. L'homme doit le faire.
Mais le conférencier, lui, ne semble pas partager cette vision très juridique du texte.
Non, pas du tout. Vanois, il s'oriente beaucoup plus vers la lecture descriptive.
Donc une simple observation ?
Voilà. Pour lui, le narrateur explique un fait habituel, une réalité anthropologique fondamentale. C'est pas une loi pénale, c'est une explication du pourquoi.
Pourquoi les humains ressentent ce besoin irrépressible de s'unir et de fonder un nouveau foyer, quoi ?
C'est ça. Et la réponse suggérée, c'est que, conceptuellement, cette union restaure l'unité originelle. Et cette restauration va bien au-delà de la biologie, elle est émotionnelle et spirituelle.
Ce qui nous amène à la réflexion du philosophe Francis Schaeffer, qui est cité page 45 de la bibliographie du cours.
Un ajout très intéressant de la part de Vanouaille.
L'argument de Schaeffer est assez profond. Il postule que cette histoire d'une femme issue d'un homme offre une base philosophique massive à l'idée même d'humanité.
Oui, il lie vraiment la théologie à la philosophie de l'être.
L'idée, c'est que si nous venons tous de sources génétiques multiples et disparates, qui seraient apparues au hasard un peu partout sur le globe, il est difficile de prouver philosophiquement que nous sommes tous fondamentalement égaux.
Ou qu'on partage la même essence.
Exactement. Le point de Schaeffer, tel qu'il est enseigné dans cette conférence, c'est que l'idée d'une humanité unifiée nécessite une origine véritablement unifiée.
C'est une question de logique interne pour lui. Le concept biblique offre un ancrage pour dire que chaque être humain tire sa source d'une unité originelle indivisible.
Sur le papier, c'est un argument philosophique très élégant. Mais c'est aussi là que le cours décide de chercher la confrontation directe.
Ah oui, le virage à 180 degrés.
Parce que cette insistance sur une origine humaine unique, centralisée et résultant d'un acte de création spécifique, ça entre en collision frontale avec tout ce que la biologie moderne et la théorie de l'évolution affirment.
C'est inévitable.
Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à la façon dont le conférencier a géré cette collision.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la science ? C'est un changement de paradigme fascinant sur le plan de la rhétorique universitaire. Il ne reste pas dans la théologie, il saute à pieds joints dans l'astrophysique.
Face à la théorie de la macroévolution, le conférencier attaque avec des mathématiques.
Et pas n'importe lesquelles. Il fait appel à Sir Fred Hoyle.
Un astronome et mathématicien britannique extrêmement célèbre.
Et il est crucial de préciser pour nos auditeurs que Hoyle n'est absolument pas un théologien ni un créationniste.
C'est le point clé de l'argumentaire.
Le cours l'utilise précisément parce qu'il est un scientifique laïque, souvent perçu comme agnostique ou athée, et qui base ses critiques uniquement sur la complexité moléculaire et les probabilités.
C'est la fameuse technique du témoin hostile.
Ah, j'aime bien cette expression. En gros, si même ton adversaire philosophique admet qu'il y a un énorme problème dans son propre camp, ton argument gagne en puissance de façon spectaculaire.
C'est un levier d'argumentation redoutable, c'est clair.
Le cours se concentre donc sur les travaux de Hoyle, publiés en 1981, notamment son livre « Evolution from Space ».
Que dit ce livre ?
Hoyle s'est penché sur la mécanique de la vie au niveau chimique, tu sais, sur la fameuse soupe primordiale.
Ouais, l'idée que la vie a émergé d'un bouillon de produits chimiques.
Voilà. Et il a calculé les probabilités que des brassages moléculaires purement aléatoires puissent produire les structures de base du vivant.
Et le chiffre qu'il avance, qui est mis en avant en gras dans la leçon, donne littéralement le vertige.
C'est un chiffre astronomique.
Il calcule que les chances de former spontanément les enzymes de base de la vie sont de 1 sur 10 à la puissance 40, c'est-à-dire un 1 suivi de 40 zéros.
C'est inimaginable! Pour bien saisir l'immensité de l'obstacle mathématique soulevé par Hoyle, il faut comprendre le mécanisme sous-jacent. Les enzymes, ce sont des protéines.
D'accord.
Et une protéine, c'est pas juste un amas chimique collé au hasard. C'est une chaîne très spécifique de centaines d'acides aminés qui doivent s'aligner dans un ordre extrêmement précis pour fonctionner.
La source utilise une analogie liée à l'informatique, n'est-ce pas ?
Oui, c'est comme essayer de taper le code source complet d'un système d'exploitation en frappant au hasard sur un clavier les yeux bandés.
Les chances d'obtenir une suite logique et fonctionnelle plutôt qu'une erreur fatale qui fait tout planter sont statistiquement considérées comme nulles.
Pour que le hasard ait eu le temps d'essayer suffisamment de combinaisons pour réussir ce tour de force. Mathématiquement, on entre dans le domaine de l'impossibilité pratique.
Et la leçon utilise une autre variante de cette analogie informatique pour contester la validité des mutations aléatoires, celles qui sont censées améliorer les espèces, selon Darwin.
Ah oui, l'analogie des bugs.
C'est ça. Le cours pose le fait que si l'on introduit des modifications aléatoires des bugs dans un programme informatique complexe, le résultat n'est jamais un programme plus performant.
Ben non, ça crée des conflits, ça corrompt les données, et le système finit par planter.
Du coup, le cours utilise ça pour dire comment peut-on croire que des erreurs de copie génétique aléatoire aient pu, de manière constante, construire des organismes de plus en plus sophistiqués.
Et c'est à ce moment précis que la tension du cours atteint son sommet.
Parce qu'une question évidente se pose.
Exactement. Si la démonstration probabiliste de Hoyle, validée par son statut d'astronome de renom, est si accablante, le professeur Van Hoy doit inévitablement répondre à la question qui brûle les lèvres de ses étudiants.
Pourquoi le modèle darwinien reste-t-il le pilier incontesté du consensus scientifique mondial ?
Si les probabilités sont de 1 sur 10 puissance 40, pourquoi les scientifiques ne regardent-ils pas ces chiffres en se disant « Ok, on a fait fausse route, cherchons autre chose ».
Et c'est là que le cours bascule carrément dans la sociologie de la science.
Oui. Si nous relions cela à une vision plus globale, le texte parle d'un mur du silence. C'est une accusation assez lourde d'intransigeance académique.
La théorie sociologique relayée par le conférencier, en s'appuyant toujours sur les observations de Hoyle, avance un concept intéressant.
Lequel ?
L'idée que le darwinisme n'est plus maintenu en place par sa pure rigueur scientifique, mais parce qu'il est devenu socialement désirable au sein de la communauté académique.
Ça, c'est fort. Ça sous-entend qu'une institution scientifique peut se comporter, au fond, comme un dogme religieux ?
C'est exactement l'argument. L'idée est qu'une fois qu'un paradigme a accaparé l'ensemble du système éducatif, les manuels, les chaires universitaires, les financements de recherche, les critères de publication, eh bien, il développe une énorme inertie.
C'est la dynamique de la continuité éducative. Un chercheur qui remet en question le mécanisme fondamental de l'évolution, il ne risque pas seulement de perdre un débat d'idées.
Il risque sa carrière.
Il risque ses subventions, sa crédibilité, son poste. Le cours suggère qu'admettre l'échec de la théorie des mutations aléatoires obligerait la biologie à repartir de zéro.
Un aveu d'impuissance que les institutions refuseraient de faire.
Érigeant ainsi ce fameux mur de silence face aux critiques probabilistes.
D'ailleurs, le cours mentionne brièvement un autre auteur sur ce sujet, Carl Henry, dans son livre « God, Revelation and Authority », qui analyse aussi ce refus institutionnel.
Oui, il est cité dans les notes.
Mais il y a une ironie monumentale dans tout ça que le cours survole un peu rapidement à mon goût.
À propos des croyances réelles de Fred Hoyle ?
Oui. En rejetant le darwinisme, Hoyle n'a pas du tout, mais alors pas du tout, embrassé le dieu de la Genèse.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Ses propres conclusions le menaient vers la panspermie.
C'est-à-dire l'idée que la vie a une origine cosmique.
Voilà. Que les structures de la vie auraient été codées ailleurs, dans l'espace, par une intelligence extraterrestre indéfinie, puis amenés sur Terre, genre par des comètes.
Ce qui démontre vraiment la flexibilité des sources quand on construit un argumentaire académique. Le professeur Van Hoy utilise la destruction mathématique du darwinisme par Hoyle.
Tout en ignorant, prudemment, ses hypothèses sur les extraterrestres.
Exactement. Parce que seul le constat de l'insuffisance du hasard l'intéresse pour valider sa propre approche théologique. C'est un choix éditorial très conscient.
Mais ça rappelle la valeur de l'écoute critique. Observer comment un argumentaire théologique utilise une controverse scientifique laïque pour valider sa propre vision du monde, c'est un exercice d'analyse des discours vraiment fascinant.
C'est la définition même de la pensée critique.
Au final, on a fait un parcours assez incroyable aujourd'hui. On est parti d'un mot hébreu ambigu, salable, et d'un débat sur l'architecture antique pour définir le concept de mariage.
Pour finir par discuter des probabilités mathématiques de 10 puissance 40 qui contestent les origines biologiques de l'humanité.
Ça illustre parfaitement la richesse du matériel universitaire étudié.
Tout à fait. Et d'ailleurs, l'articulation de ces idées permet de soulever une réflexion finale assez provocatrice, qui boucle un peu la boucle de ce cours.
Je t'écoute.
La leçon du professeur s'appuie grandement sur la thèse de Hoyle, qui accuse les biologistes modernes de maintenir un consensus artificiel par simple conformisme académique, par désirabilité sociale, refusant de voir les failles de leur modèle.
D'accord.
Mais si l'on inverse le miroir, et qu'on applique cette même critique implacable au tout début de la conférence.
Tu veux dire sur la traduction de la Genèse ?
Exactement. On est en droit de se demander si la désirabilité sociale aveugle la science moderne, est-ce que les traducteurs bibliques n'ont pas agi de la même manière ?
Ah, je vois où tu vas en venir.
Quand ils ont choisi, siècle après siècle, de traduire salab par côte plutôt que côté, pliant le texte à des visions anatomiques préconçues sur la création et la place de la femme, dans quelle mesure étaient-ils eux aussi victimes du conformisme social de leur propre époque ?
C'est une excellente question. C'est une invitation à examiner comment les préjugés d'une époque modèlent tout.
À la fois nos textes sacrés et nos manuels de biologie.
De quoi réfléchir un bon moment.